Jules Verne, l'île à hélice, deuxième partie, chapitre 12. Tribord et bâbord, la barre. Standard Island a quitté les parages de l'île Sandwich le 3 mars. Avant son départ, la colonie française et leurs alliés indigènes ont été l'objet de la vive reconnaissance des milliardais. Ce sont des amis qu'ils reverront, ce sont des frères que Sébastien Zorn et ses camarades laissent sur cette île du groupe des Nouvelles Hébrides, qui figurera désormais dans l'itinéraire annuel. Sous la direction du commodore Simcoe, les réparations ont été rapidement faites. Du reste, les dégâts étaient peu considérables. Les machines des fabriques d'électricité sont intactes. Avec ce qui reste du stock de pétrole, le fonctionnement des dynamos est assuré pour plusieurs semaines. D'ailleurs, l'île à hélice ne tardera pas à rejoindre cette partie du Pacifique où ses câbles sous-marins lui permettent de communiquer avec Madeleine Bay. On a, par suite, cette certitude que la campagne s'achèvera sans mécompte. Avant 4 mois, Standard Island aura rallié la côte américaine. « Espérons-le, » dit Sébastien Zorn, alors que le surintendant s'emballe, comme d'habitude, sur l'avenir de son merveilleux appareil maritime. « Mais, » observe Callistus Munbar, « quelle leçon nous avons reçue, ces malais, si serviables. Ce capitaine Sarol, personne n'aurait pu les suspecter. Aussi est-ce bien la dernière fois que Standard Island aura donné asile à des étrangers. Même si un naufrage les jette sur votre route ?» demande Panchina. « Mon bon, je ne crois plus ni aux naufragés ni aux naufrages. » Cependant, de ce que le commodore Simcoe est chargé, comme avant, de la direction de l'île à hélice, il n'en résulte pas moins que les pouvoirs civils soient entre ses mains. Depuis la mort de Sirius Bickerstaff, Minier City n'a plus de maire, et, on le sait, les anciens adjoints n'ont pas conservé leurs fonctions. En conséquence, il sera nécessaire de nommer un nouveau gouverneur à Standard Island. Or, pour cause d'absence d'officier de l'état civil, il ne peut être procédé à la célébration du mariage de Walter Tangardon et de Miss Di Coverley. Voilà une difficulté qui n'aurait pas surgi sans les machinations de ce misérable Sarol. Et non seulement les deux futurs, mais tous les notables de Milliard City, mais toute la population, ont hâte que ce mariage soit définitivement accompli. Il y a là une des plus sûres garanties de l'avenir. Que l'on ne tarde pas, car déjà Walter Tangardon parle de s'embarquer sur un des steamers de Tribord Harbor, de se rendre avec les deux familles au plus proche archipel, où un maire pourra procéder à la cérémonie nuptiale. Que diable ! Il y en a aux Samoa, aux Tonga, aux Marquises, et en moins d'une semaine, si l'on marche à toute vapeur. Les esprits sages font entendre raison à l'impatient jeune homme. On s'occupe de préparer les élections. Dans quelques jours, le nouveau gouverneur sera nommé. Le premier acte de son administration sera de célébrer en grande pompe le mariage si ardemment attendu. Le programme des fêtes sera repris dans son ensemble. Un maire, un maire! Il n'y a que ce cri dans toutes les bouches. Pourvu que ces élections ne ravivent pas les rivalités, mal éteintes peut-être, fait observer Frascolin. Non. Et Callistus Munbar est décidé à se mettre en quatre, comme on dit, pour mener les choses à bonne fin. Et d'ailleurs, s'écrie-t-il, est-ce que nos amoureux ne sont pas là? Vous m'accorderez bien, je pense, que l'amour-propre n'aurait pas beau jeu contre l'amour. Standard Island continue à s'élever au nord-est, vers le point où se croisent le 12e parallèle sud et le 175e méridien ouest. C'est dans ces parages que les derniers câblegrammes, lancés avant la relâche aux Nouvelles Hébrides, ont convié les navires de ravitaillement expédiés de la baie Madeleine. Du reste, la question des provisions ne saurait préoccuper le commodore Simcoe. Les réserves sont assurées pour plus d'un mois, et de ce chef, il n'y a aucune inquiétude à concevoir. Il est vrai, on est à court de nouvelles étrangères. La chronique politique est maigre. Starboard Chronicle se plaint et New Herald se désole. Qu'importe. Est-ce que Standard Island à elle seule n'est pas dans un petit monde complet? Et qu'a-t-elle à faire de ce qui se passe dans le reste du sphéroïde terrestre? Est-ce donc la politique qui la démange? Eh, il ne tardera pas à s'en faire assez chez elle. Trop peut-être. En effet, la période électorale est ouverte. On travaille les 30 membres du Conseil des Notables, où les Bâbordais et les Tribordais se comptent en nombre égal. Il est certain, d'ores et déjà, que le choix du nouveau gouverneur donnera lieu à des discussions, car Jem Tangardon et Nat Coverley vont se trouver en rivalité. Quelques jours se passent en réunion préparatoire. Dès le début, il a été visible qu'on ne s'entendrait pas, ou du moins difficilement, étant donné l'amour-propre des deux candidats. Aussi, une sourde agitation remue-t-elle la ville et les ports. Les agents des deux sections cherchent à provoquer un mouvement populaire, afin d'opérer une pression sur les notables. Le temps s'écoule, et il ne semble pas que l'accord puisse se faire. Ne peut-on craindre maintenant que Jam Tangardon et les principaux Bâbordais ne veuillent imposer leurs idées, repoussées par les principaux Tribordais, reprendre ce malencontreux projet de faire de Standard Island une île industrielle et commerciale. Cela, jamais l'autre section ne l'acceptera. Bref, tantôt le parti Coverley semble l'emporter, tantôt le parti Tangardon paraît tenir la tête. De là, des récriminations malsonnantes, des aigreurs entre les deux camps, un refroidissement manifeste entre les deux familles. Refroidissement dont Walter et Miss Day ne veulent même pas s'apercevoir. Toute cette broutille de politique, est-ce que cela les regarde? Il y a pourtant un très simple moyen d'arranger les choses, du moins au point de vue administratif. C'est de décider que les deux compétiteurs rempliront à tour de rôle les fonctions de gouverneur. 6 mois celui-ci, 6 mois celui-là. 1 an même, pour peu que la chose semble préférable. Pourtant, plus de rivalité. Une convention de nature à satisfaire les deux parties. Mais ce qui est de bon sens n'a jamais chance d'être adopté en ce bas monde. Et pour être indépendante des continents terrestres, Standard Island n'en subit pas moins toutes les passions de l'humanité sublunaire. Voilà, dit un jour Frascolin à ses camarades, voilà les difficultés que je craignais. Et que nous importent ces dissensions? Répond Pinchina. Quel dommage en pourrait-il résulter pour nous? Dans quelques mois nous serons arrivés à la baie Madeleine, notre engagement aura pris fin, et chacun de nous remettra le pied sur la terre ferme, avec son petit million en poche. S'il ne surgit pas encore quelques catastrophes, réplique l'intraitable Sébastien Zorn. Est-ce qu'une pareille machine flottante est jamais sûre de l'avenir? Après l'abordage du navire anglais, l'envahissement des fauves, après les fauves, l'envahissement des néo-hybridiens, après les indigènes, les... Tais-toi, oiseau de mauvais augure, s'écrie Vernès. Tais-toi ou nous te faisons cadenasser le bec. Néanmoins, il y a grandement lieu de regretter que le mariage Tangardon-Coverley n'ait pas été célébré à la date fixée. Les familles étant unies par ce lien nouveau, peut-être la situation eût-elle été moins difficile à détendre. Les deux époux seraient intervenus d'une façon plus efficace. Après tout, cette agitation ne saurait durer, puisque l'élection doit se faire le 15 mars. C'est alors que le commodore Simcoe essaye de tenter un rapprochement entre les deux sections de la ville. On le prie de ne se mêler que de ce qui le concerne. Il a l'île à conduire, qu'il la conduise. Il a ses écueils à éviter, qu'il les évite. La politique n'est point de sa compétence. Le commodore Simcoe se le tient pour dit. Elles-mêmes, les passions religieuses, sont entrées en jeu dans ce débat. Et le clergé, ce qui est peut-être un tort, s'y mêle plus qu'il ne convient. Ils vivaient en si bon accord pourtant, le temple et la cathédrale, le pasteur et l'évêque. Quant aux journaux, il va de soi qu'ils sont descendus sur l'arène. Le New Herald combat pour les Tangardons, et le Starboard Chronicle pour les Coverley. L'encre coule à flot, et l'on peut même craindre que cette encre ne se mélange de sang. Grand Dieu, n'a-t-il pas été déjà trop arrosé, ce sol vierge de Standard Island, pendant la lutte contre ces sauvages des Nouvelles Hébrides? En somme, la population moyenne s'intéresse surtout aux deux fiancés, dont le roman s'est interrompu au premier chapitre. Mais que pourrait-elle pour assurer leur bonheur? Déjà les relations ont cessé entre les deux sections de Milliard City. Plus de réceptions, plus d'invitations, plus de soirées musicales. Si cela dure, les instruments du quatuor concertant vont moisir dans leurs étuis, et nos artistes gagneront leurs énormes émoluments les mains dans les poches. Le surintendant, quoiqu'il n'en veuille rien avouer, ne laisse pas d'être dévoré d'une mortelle inquiétude. Sa situation est fausse, il le sent, car toute son intelligence s'emploie à ne déplaire ni aux uns ni aux autres. Moyen sûr de déplaire à tous. À la date du 12 mars, Standard Island s'est élevé sensiblement vers l'équateur. Pas assez en latitude cependant pour rencontrer les navires expédiés de Madeleine Bay. Cela ne peut pas tarder d'ailleurs. Mais vraisemblablement les élections auront lieu auparavant, puisqu'elles sont fixées au 15. Entre-temps, chez les Tribordais et chez les Bâbordais, on se livre à des pointages multiples. Toujours des pronostics d'inégalité. Il n'est aucune majorité possible, s'il ne se détache quelques voix d'un côté ou de l'autre. Or ces voix-là tiennent comme des dents à la mâchoire d'un tigre. Alors surgit une idée géniale. il semble qu'elle soit née au même moment dans l'esprit de tous ceux qui ne devraient pas être consultés. Cette idée est simple, elle est digne, elle mettrait un terme aux rivalités. Les candidats eux-mêmes s'inclineraient sans doute devant cette juste solution. Pourquoi ne pas offrir au roi de Malécarlie le gouvernement de Standard Island? Cet ex-souverain est un sage, un large et ferme esprit. Sa tolérance et sa philosophie seraient la meilleure garantie contre les surprises de l'avenir. Il connaît les hommes pour les avoir vus de près. Il sait qu'il faut compter avec leurs faiblesses et leur ingratitude. L'ambition n'est plus son fait, et jamais la pensée ne lui viendra de substituer le pouvoir personnel à ces institutions démocratiques qui constituent le régime de l'île Aelis. Il ne sera que le président du conseil d'administration de la nouvelle société Tangardon Coverley et compagnie. Un important groupe de négociants et de fonctionnaires de Milliard City, à laquelle se joint un certain nombre d'officiers et de marins des deux ports, décide d'aller présenter à leur royal concitoyen cette proposition sous forme de vœux. C'est dans le salon du rez-de-chaussée de l'habitation de la 39e avenue que leur majesté reçoivent la députation. Écoutée avec bienveillance, elle se heurte à un inébranlable refus. Les souverains déchus se rappellent le passé, et sous l'empire de cette impression, « Je vous remercie, messieurs, » dit le roi. « Votre demande nous touche, mais nous sommes heureux du présent, et nous avons l'espoir que rien ne viendra troubler désormais l'avenir. Croyez-le, nous en avons fini avec ces illusions qui sont inhérentes à une souveraineté quelconque. Je ne suis plus qu'un simple astronome à l'observatoire de Standard Island, et je ne veux pas être autre chose. » Il n'y avait pas lieu d'insister devant une réponse si formelle, et la députation s'est retirée. Les derniers jours qui précèdent le scrutin voient accroître la surexcitation des esprits. Il est impossible de s'entendre. Les partisans de James Tangardon et de Nat Coverley évitent de se rencontrer même dans les rues. On ne va plus d'une section à l'autre. Ni les tribordais ni les babordais ne dépassent la 1e avenue. Milliard City est formée maintenant de deux villes ennemies. Le seul personnage qui court de l'une à l'autre, agité, rompu, fourbu, suant sang et eau, s'épuisant en bons conseils, rebuté à droite, rebuté à gauche, c'est le désespéré surintendant, Callistus Munbar. Et 3 ou 4 fois par jour, il vient s'échouer comme un navire sans gouvernail dans les salons du casino, où le quatuor l'accable de ses vaines consolations. Quant au commodore Simcoe, il se borne aux fonctions qui lui sont attribuées. Il dirige l'île Aelis suivant l'itinéraire convenu. Ayant une sainte horreur de la politique, il acceptera le gouverneur, quel qu'il soit. Ses officiers, comme ceux du colonel Stewart, se montrent aussi désintéressés que lui de la question qui fait bouillonner les têtes. Ce n'est pas à Standard Island que les pronunciamentos sont à craindre. Cependant, le conseil des notables, réuni en permanence à l'hôtel de ville, discute et se dispute. On en vient aux personnalités. La police est forcée de prendre certaines précautions, car la foule s'amasse du matin au soir devant le palais municipal et fait entendre des cris séditieux. D'autre part, une déplorable nouvelle vient d'être mise en circulation. Walter Tangardon s'est présenté la veille à l'hôtel de Coverley et n'a pas été reçu. Interdiction aux deux fiancés de se rendre visite, et puisque le mariage n'a pas été célébré avant l'attaque des bandes néo-hébridiennes, qui oserait dire qu'il s'accomplira jamais? Enfin, le 15 mars est arrivé. On va procéder à l'élection dans la grande salle de l'hôtel de ville. Un public houleux encombre le square, comme autrefois la population romaine, devant ce palais du Quirinal, où le conclave procédait à l'exaltation d'un pape au trône de Saint-Pierre. Que va-t-il sortir de cette suprême délibération? Les pointages donnent toujours un partage égal des voix. Si les tribordais sont restés fidèles à Nat Coverley, si les babordais tiennent pour James Tangardon, que se passera-t-il? Le grand jour est arrivé. Entre 1h et 3, la vie normale est comme suspendue à la surface de Standard Island. De 5 à 6 000 personnes s'agitent sous les fenêtres de l'édifice municipal. On attend le résultat des votes des notables. Résultat qui sera immédiatement communiqué par téléphone aux deux sections et aux deux ports. Un premier tour de scrutin a lieu à 1h35. Les candidats obtiennent le même nombre de suffrages. 1 heure après, second tour de scrutin. Ils ne modifient en aucune façon les chiffres du premier. À 3h35, troisième et dernier tour. Cette fois encore, aucun nom n'obtient la moitié des voix plus une. Le conseil se sépare alors, et il a raison. S'il restait en séance, ses membres sont à ce point exaspérés qu'ils en viendraient aux mains. Alors qu'ils traversent le square pour regagner les uns l'hôtel Tangardon, les autres l'hôtel Coverley, la foule les accueille par les plus désagréables murmures. Il faut pourtant sortir de cette situation, qui ne saurait se prolonger, même quelques heures. Elle est trop dommageable aux intérêts de Standard Island. Entre nous, dit Panchina, lorsque ses camarades et lui apprennent du surintendant quel a été le résultat de ces 3 tours de scrutin, il me semble qu'il y a un moyen très simple de trancher la question. Et lequel ? Demande Callistus Munbar, qui lève vers le ciel des bras désespérés. Lequel ? C'est de couper l'île par son milieu, de la diviser en tranches égales, comme une galette, dont les 2 moitiés navigueront chacune de son côté, avec le gouverneur de son choix. Couper notre île ? S'écrie le surintendant, comme si Pinchina lui eût proposé de l'amputer d'un membre. Avec un ciseau à froid, un marteau et une clé anglaise, ajoute son Altesse, la question sera résolue par ce déboulonnage, et il y aura 2 îles mouvantes au lieu d'une à la surface de l'océan Pacifique. Ce Pinchina ne pourra donc jamais être sérieux, même lorsque les circonstances ont un tel caractère de gravité. Quoi qu'il en soit, si son conseil ne doit pas être suivi, du moins matériellement, si l'on ne fait intervenir ni le marteau ni la clé anglaise, si aucun déboulonnage n'est pratiqué suivant l'axe de la 1ème avenue, depuis la batterie de l'éperon jusqu'à la batterie de la poupe, la séparation n'en est pas moins accomplie au point de vue moral. Les bâbordais et les tribordais vont devenir aussi étrangers les uns aux autres que si 100 lieues de mer les séparaient. En effet, les 30 notables sont décidés à voter séparément, faute de pouvoir s'entendre. D'une part, Jem Tangardon est nommé gouverneur de sa section, et il la gouvernera à sa fantaisie. De l'autre, Nat Coverley est nommé gouverneur de la sienne, et il la gouvernera à sa guise. Chacune conservera son port, ses navires, ses officiers, ses marins, ses miliciens, ses fonctionnaires, ses marchands, sa fabrique d'énergie électrique, ses machines, ses moteurs, ses mécaniciens, ses chauffeurs, et toutes les 2 se suffiront à elles-mêmes. Très bien. Mais comment fera le commodore Simcoe pour se dédoubler, et le surintendant Callistus Munbar pour remplir ses fonctions à la satisfaction commune? En ce qui concerne ce dernier, il est vrai, cela n'a pas d'importance. Sa place ne va plus être qu'une sinécure. De plaisir et de fête, pourrait-il en être question lorsque la guerre civile menace Standard Island, car un rapprochement n'est pas possible. Qu'on en juge par ce seul indice. À la date du 17 mars, les journaux annoncent la rupture définitive du mariage de Walter Tangardon et de Miss Di Coverley. Oui, rompus. Malgré leurs prières, malgré leurs supplications, et quoi qu'ait dit un jour Callistus Munbar, l'amour n'a pas été le plus fort. Eh bien non, Walter et Miss Di ne se sépareront pas. Ils abandonneront leur famille, ils iront se marier à l'étranger. Ils trouveront bien un coin du monde où l'on puisse être heureux, sans avoir tant de millions autour du cœur. Cependant, après la nomination de Jem Tangardon et de Nat Coverley, rien n'a été changé à l'itinéraire de Standard Island. Le commodore Simcoe continue à se diriger vers le nord-est. Une fois à la baie Madeleine, il est probable que, lassé de cet état de choses, nombre de milliardais iront redemander au continent ce calme que ne leur offre plus le joyau du Pacifique. Peut-être même l'île Ellis sera-t-elle abandonnée. Et alors on la liquidera, on la mettra à l'encan, on la vendra au poids. Comme vieille et inutile ferraille, on la renverra à la fonte. Soit, mais les 5000 miles qui restent à parcourir exigent environ 5 mois de navigation. Pendant cette traversée, la direction ne sera-t-elle pas compromise par le caprice ou l'entêtement des 2 chefs? D'ailleurs, l'esprit de révolte s'est infiltré dans l'âme de la population. Les bâbordais et les tribordais vont-ils en venir aux mains, s'attaquer à coups de fusil, baigner de leur sang les chaussées de tôle de Milliard City? Non. Les partis n'iront pas jusqu'à ces extrémités, sans doute. On ne reverra point une autre guerre de sécession, sinon entre le nord et le sud, du moins entre le tribord et le bâbord de Standard Island. Mais ce qui était fatal est arrivé, au risque de provoquer une véritable catastrophe. Le 19 mars, au matin, le commodore Simcoe est dans son cabinet, à l'observatoire, où il attend que la première observation de hauteur lui soit communiquée. À son estime, Standard Island ne peut être éloignée des parages où elle doit rencontrer les navires de ravitaillement. Des vigies, placées au sommet de la tour, surveillent la mer sur un vaste périmètre afin de signaler ces steamers dès qu'ils paraîtront au large. Près du Commodore se trouve le roi de Malicarly, le colonel Stewart, Sébastien Zorn, Pinchina, Frascolin, Iverness, un certain nombre d'officiers et de fonctionnaires, de ceux que l'on peut appeler les neutres, car ils n'ont point pris part aux dissensions intestines. Pour eux, l'essentiel est d'arriver le plus vite possible à Madeleine Bay, où ce déplorable état de choses prendra fin. À ce moment, deux timbres résonnent, et deux ordres sont transmis au Commodore par le téléphone. Ils viennent de l'hôtel de ville, où Jem Tangardon, dans l'aile droite, Nat Coverley, dans l'aile gauche, se tiennent avec leurs principaux partisans. C'est de là qu'ils administrent Standard Island, et ce qui n'étonnera guère, à coup d'arrêtés absolument contradictoires. Or, le matin même, à propos de l'itinéraire suivi par Ethel Simcoe, et sur lequel les deux gouverneurs auraient au moins dû s'entendre, l'accord n'a pu se faire. L'un, Nat Coverley, a décidé que Standard Island prendrait une direction nord-est, afin de rallier l'archipel des Gilbert. L'autre, Jem Tangardon, s'entêtant à créer des relations commerciales, a résolu de faire route au sud-ouest vers les parages australiens. Voilà où ils en sont, ces deux rivaux, et leurs amis ont juré de les soutenir. À la réception des deux ordres envoyés simultanément à l'observatoire. « Voilà ce que je craignais, » dit le Commodore. « Et ce qui ne saurait se prolonger dans l'intérêt public, » ajoute le roi de Malicarly. « Que décidez-vous ? » demande Frascolin. « Parbleu, » s'écrie Pinchina, « je suis curieux de voir comment vous manœuvrerez, monsieur Simcoe. »« Mal, » observe Sébastien Zorn. « Faisons d'abord savoir à Jem Tangardon et à Nat Coverley, » répond le Commodore, « que leurs ordres sont inexécutables, puisqu'ils se contredisent. D'ailleurs, mieux vaut que Standard Island ne se déplace pas, en attendant les navires qui ont rendez-vous dans ces parages. » Cette très sage réponse est immédiatement téléphonée à l'hôtel de ville. Une heure s'écoule sans que l'observatoire soit avisé d'aucune autre communication. Très probablement, les deux gouverneurs ont renoncé à modifier l'itinéraire, chacun en un sens opposé. Soudain se produit un singulier mouvement dans la coque de Standard Island. Et qu'indique ce mouvement ? Que Jem Tangardon et Nat Coverley ont poussé l'entêtement jusqu'aux dernières limites. Toutes les personnes présentes se regardent, formant autant de points interrogatifs. Qu'y a-t-il ? Ce qu'il y a, répond le Commodore Simcoe en haussant les épaules. Il y a que Jem Tangardon a envoyé directement ses ordres à M. Watson, le mécanicien de bâbord harbor, alors que Nat Coverley envoyait des ordres contraires à M. Somois, le mécanicien de tribord harbor. L'un a donné de faire machine en avant pour aller au nord-est, l'autre machine arrière pour aller au sud-ouest. Le résultat est que Standard Island tourne sur place, et cette giration durera aussi longtemps que le caprice de ces deux têtus personnages. « Allons, » s'écrie Pinchina. « Ça devait finir par une valse. La valse des cabochards. Athanas Doremus n'a plus qu'à se démettre. Les milliardais n'ont pas besoin de ses leçons. » Peut-être cette absurde situation, comique par certains côtés, aurait-elle pu prêter à rire. Par malheur, la double manœuvre est extrêmement dangereuse, ainsi que le fait observer le Commodore. Tiraillé en sens inverse, sous l'attraction de ses 10 millions de chevaux, Standard Island risque de se disloquer. En effet, les machines ont été lancées à toute vitesse. Les hélices fonctionnent à leur maximum de puissance, et cela se sent au tressaillement du sous-sol d'acier. Qu'on imagine un attelage dont l'un des chevaux tire à U, l'autre à Dia, et l'on aura l'idée de ce qui se passe. Cependant, avec le mouvement qui s'accentue, Standard Island pivote sur son centre. Le parc, la campagne, décrivent des cercles concentriques, et les points du littoral, situés à la circonférence, se déplacent avec une vitesse de 10 à 12 milles à l'heure. De faire entendre raison aux mécaniciens, dont la manœuvre provoque ce mouvement giratoire, il n'y faut pas songer. Le Commodore Simcoe n'a aucune autorité sur eux. Ils obéissent aux mêmes passions que les tribordais et les bâbordais. Fidèles serviteurs de leur chef, messieurs Watson et Somois tiendront jusqu'au bout, machine contre machine, dynamo contre dynamo. Et alors se produit un phénomène dont le désagrément aurait dû calmer les têtes, en amollissant les cœurs. Par suite de la rotation de Standard Island, nombre de milliardais, surtout de milliardaises, commencent à se sentir singulièrement troublés dans tout leur être. À l'intérieur des habitations, d'écœurantes nausées se manifestent, principalement dans celles qui, le plus éloignées du centre, subissent un mouvement de valse plus prononcé. Ma foi, en présence de ce résultat à farce et baroque, Iverness, Pinchina, Frascolin sont pris d'un fou rire, bien que la situation tende à devenir très critique. Et en effet, le joyau du Pacifique est menacé d'un déchirement matériel qui égalera, s'il ne le dépasse, son déchirement moral. Quant à Sébastien Zorn, sous l'influence de ce tournoiement continu, il est pâle, très pâle. Il amène ses couleurs, comme dit Pinchina, et le cœur lui remonte aux lèvres. Est-ce que cette mauvaise plaisanterie ne finira pas? Être prisonnier sur cette immense table tournante qui n'a même pas le don de dévoiler les secrets de l'avenir. Pendant toute une interminable semaine, Standard Island n'a pas cessé de pivoter sur son centre, qui est Milliard City. Aussi la ville est-elle toujours remplie d'une foule qui y cherche refuge contre les nausées. Jusqu'en ce point de Standard Island, le tournoiement est moins sensible. En vain, le roi de Malekarli, le commodore Simcoe, le colonel Stewart ont essayé d'intervenir entre les deux pouvoirs qui se partagent le palais municipal. Aucun n'a voulu abaisser son pavillon. Sirius Bickerstaff lui-même, s'il eût pu renaître, aurait vu ses efforts échouer contre cette ténacité ultra-américaine. Or, pour comble de malheur, le ciel a été si constamment couvert de nuages pendant ces 8 jours qu'il n'a pas été possible de prendre hauteur. Le commodore Simcoe ne sait plus quelle est la position de Standard Island. Entraîné en sens opposé par ses puissantes hélices, on la sentait frémir jusque dans les tôles de ses compartiments. Aussi personne n'a-t-il songé à rentrer dans sa maison. Le parc regorge de monde. On campe en plein air. D'un côté éclatent les cris « Hourra pour Tanguardon !» De l'autre, « Hourra pour Coverley !» Les yeux lancent des éclairs, les poings se tendent. La guerre civile va-t-elle donc se manifester par les pires excès, maintenant que la population est arrivée au paroxysme de l'affolement? Quoi qu'il en soit, ni les uns ni les autres ne veulent rien voir du danger qui est proche. On ne cédera pas, dû le joyau du Pacifique se briser en 1000 morceaux. Et il continuera de tourner ainsi jusqu'à l'heure où, faute de courant, les dynamos cesseront d'actionner les hélices. Au milieu de cette irritation générale, à laquelle il ne prend aucune part, Walter Tanguardon est en proie à la plus vive angoisse. Il craint non pour lui, mais pour Miss Di Coverley, quelques subites dislocations qui anéantissent Milliard City. Depuis 8 jours, il n'a pu revoir celle qui fut sa fiancée et qui devrait être sa femme. Aussi, désespéré, a-t-il 20 fois supplié son père de ne pas s'entêter à cette déplorable manœuvre. Jem Tanguardon l'a éconduit, sans vouloir rien entendre. Alors, dans la nuit du 27 au 28 mars, profitant de l'obscurité, Walter essaye de rejoindre la jeune fille. Il veut être auprès d'elle si la catastrophe se produit. Après s'être glissé au milieu de la foule qui encombre la 1ème avenue, il pénètre dans la section ennemie afin de gagner l'hôtel Coverley. Un peu avant le lever du jour, une formidable explosion ébranle l'atmosphère jusque dans les hautes zones. Poussées au-delà de ce qu'elles peuvent supporter, les chaudières de bâbord viennent de sauter avec les bâtiments de la machinerie. Et comme la source d'énergie électrique s'est brusquement tarie de ce côté, la moitié de Standard Island est plongée dans une obscurité profonde.